Radio Okapi. Gisèle Cache pour le journal.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre journal sur Radio Okapi. Voici le titre de l'actualité ce matin. 65e anniversaire de l'indépendance. À Kinshasa, des marches de santé ont donné la parole aux citoyens. Les gens souffrent, nous avons faim, lancent certains. À Beni, le souvenir de l'indépendance se heurte aux réalités sécuritaires persistantes. Pendant ces temps, le président Tshisekedi appelle à l'unité et à une paix durable, fruit d'un effort collectif. Les détails dans un instant. Ituri, 370 personnes handicapées retrouvent leur mobilité grâce au soutien du CICR. Depuis janvier, le Comité international de la Croix-Rouge a fourni fauteuils roulants et équipements adaptés à des centaines de bénéficiaires, une avancée majeure pour une population longtemps marginalisée. Kinshasa se prépare à accueillir le tout premier festival mondial des musiques et du tourisme, un événement inédit qui promet de faire vibrer la capitale au rythme des cultures du monde, tout en mettant en lumière les atouts touristiques de la RDC. Pour en parler, notre invité ce matin, le ministre du Tourisme, Didier Mpambia. Restez à l'écoute, l'essentiel vous attend dans un instant. En tête de l'actualité aujourd'hui, le 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, célébré hier lundi 30 juin. Cette date continue de faire parler d'elle. À Kinshasa, la capitale, c'est surtout le caractère férié de la journée qui a permis à divers groupes mutuels, associations des jeunes et autres organisations d'improviser des marches de santé pour certains et des marches commémoratives pour d'autres. Mais au-delà de ces activités, c'est la signification que chacun attribue à cette journée qui interpelle, elle relève le regard d'une nation encore profondément attachée à son passé glorieux, parfois avec une pointe de nostalgie. Notre reporter Jacques-Yves Molima s'est rendu sur le boulevard du 30 juin. Il nous livre ce reportage.
Normalement, une fête nationale doit être à la dimension nationale.
Est-ce encore le cas en RDC? Oui, pour les uns, mais pour les autres?
À cette époque, vraiment, il y a une grande différence.
Ça a un impact, pas une cérémonie qu'on faisait auparavant.
Qu'est-ce qui était fait avant?
Avant, c'était bien là, on fêtait, on faisait des défilés. Maintenant, là, vraiment, c'est un peu compliqué.
Mais pourquoi ce changement?
Vu conjoncture actuelle.
Et ce n'est pas tout?
D'autre part, le pays ne marche pas bien comme il faut.
Pourtant, il y a une grande signification.
Pour un peu faire voir à la génération future qui n'a pas vécu l'indépendance, qu'ils sachent que ça a été un événement de taille.
Malgré tout, pour les jeunes, il y a lieu de festoyer.
Nous les jeunes, on prend même le plaisir de faire des marches à l'indépendance. Il faut fêter. Mais depuis le cinquantenaire, il n'y a plus rien.
Et ils ne sont pas seuls, les mamans sont avec eux.
On est là, en train de marcher, pour la mémoire de notre pays. Pour le moment, c'est trop foutu. Les gens souffrent, donc on marche avec la faim.
Entre-temps, d'autres n'y pensent même pas comme ces cambistes.
Je suis ici à Boulevard pour faire mes affaires.
Mais enfin, il ne faut pas oublier que...
On ne peut pas fêter ici à Kinshasa aussi longtemps que la population est en train de mourir à l'est.
C'est tout de même une fête pour toute la nation.
À Beni, dans cette ville du Nord Kivu, provisoirement chef-lieu de la province, certains habitants s'interrogent sur la portée réelle du 30 juin. Entre souvenirs historiques et défis actuels, nombreux sont ceux qui estiment que l'indépendance reste incomplète tant que la paix et la sécurité ne sont pas rétablies dans l'est du pays. Hier lundi, 30 juin, jour de la célébration nationale, Martial Papi Mukeba a sillonné les rues de Beni et nous livre ce reportage.
Dans les rues de Beni, les drapeaux sont rares, les célébrations discrètes. En ce 30 juin, jour anniversaire de l'indépendance de la RDC, certains habitants hésitent entre fierté nationale et frustration.
65 ans après l'indépendance, nous devrions être un peuple libre et épanoui. Mais ici au Nord Kivu, on vit encore dans la guerre. On ne peut pas parler d'indépendance quand les groupes armés nous empêchent de dormir et circuler librement.
Malgré cette insécurité persistante, Patience Sinamouli, de l'organisation féminine Tous engagés pour la paix et le développement, veut encore croire au rêve congolais.
Moi, je suis né bien après l'indépendance, mais je crois qu'on peut encore construire un vrai Congo. On a besoin d'unité, de justice et de paix. Voilà les valeurs qui donneront enfin un sens à ces 30 choix. Il est temps que chacun dans ce domaine contribue à l'émergence de ce pays.
Dans cette région meurtrie, les 65 cas de l'indépendance sont un appel, une attente et pour beaucoup une espérance. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Lubumbashi, l'indépendance de la République démocratique du Congo continue de raviver les souvenirs des témoins de la première heure à Katouba, l'un des quartiers populaires de la ville. Cyril Ntumba Mouya, notable respecté et ancien commissaire de zone, replonge dans cette journée historique du 30 juin 1960. Ce jour-là, tout le pays vibrait de joie. L'indépendance n'était pas un rêve, mais plutôt une réalité palpable, se souvient-il avec émotion. Une journée gravée dans sa mémoire, tant l'ambiance, le chant et l'unité du peuple congolais ont marqué son existence. Jean Gandou l'a joint par téléphone, voici son témoignage.
Tout le monde était en fête. Nous les enfants on fêtait sans savoir pourquoi on fêtait, mais la seule chose qui nous avait un peu impressionné, on a vu les véhicules passer dans toutes les grandes avenues de la Katouba, et là, ils jetaient des petits drapelets avec épingles que l'on pouvait accrocher à sa veste. On les jetait et nous, comme étant petits, nous les avons également ramassés pour les accrocher à nos chemises. Nous étions là à côté de bar en train de contempler comment les papas et les mamans dansaient. Il y avait les bars où c'était plein de gens qui prenaient leur bière. Au niveau de marché là, il y avait un grand espace. Il y a les différents groupes folkloriques qui dansaient. Avec ce que les grandes personnes racontaient, on croyait que maintenant c'est le départ de blanc, ce sont les Congolais qui vont occuper tous les postes de commandement du pays. Et en cette journée-là, toute la soirée, il y avait les jekokés qui dansaient et les gens sont allés au-delà de 23h minuit ce jour-là.
65e anniversaire de l'indépendance, le président Félix Tshisekedi a marqué cette journée par une allocution forte, empreinte d'espoir et de détermination. Il a salué la résilience du peuple congolais, en particulier celle des populations de l'Est durement éprouvées par des années de conflit. Cette commémoration intervient dans un contexte porteur, la signature, la veille à Washington d'un accord de paix qualifié d'historique, un texte censé ouvrir la voie à la fin des violences dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Dans son message, le chef de l'État a lancé un appel à l'unité et à la responsabilité collective. Cette paix, a-t-il déclaré, ne doit pas être une solution des façades, mais une conquête durable portée par tous. Billy Ivan Lutumba revient sur le temps fort de cette déclaration présidentielle.
Commentant l'accord de Washington, Félix Tshisekedi affirme que l'ambition du pouvoir de Kinshasa est de rétablir l'autorité de l'État sur tout le territoire national et restaurer une paix réelle, durable dans toute la sous-région.
Cet accord n'est pas seulement un document. Il est une promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Niragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités martyrisées par la guerre.
L'idéal à travers cet accord soutient-il, c'est une paix durable et de coopération régionale, mais il doit parvenir à restaurer aussi la dignité des Congolais.
L'accord signé à Washington augure une ère de paix durable, nous engage à reconstruire nos communautés, à revitaliser nos économies et à restaurer la dignité de chaque Congolais. Nous continuerons à exiger que justice soit rendue aux victimes et que les responsables des atrocités répondent de leurs actes.
En ce 65e anniversaire de l'indépendance, le chef de l'État salue la bravoure de tous les hommes qui combattent pour la souveraineté de la RDC.
L'indépendance que nous commémorons aujourd'hui est surtout un cap pour l'avenir. Elle est un projet vivant, un idéal à construire chaque jour. Cet idéal exige de nous que nous surmontions non seulement les menaces armées, mais aussi l'insécurité sociale, l'injustice, le tribalisme et la division.
Ainsi convie-t-il les Congolais de tous bords autour d'un même idéal, celui de construire un Congo moderne, sûr et respecté.
Dans la suite de réactions suscitées par la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, l'acteur politique Martin Fayulu a lui aussi pris la parole pour livrer sa vision, appelant à la cohésion nationale comme socle du développement. Il a réitéré son plaidoyer en faveur d'un dialogue inclusif entre Congolais, un dialogue franc selon lui pour penser les plaies, dire les vérités et reconstruire la confiance des étapes essentielles à la reconstruction du tissu national. Dans la foulée, Martin Fayulu a salué la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda tout en lançant un appel à la vigilance quant à sa mise en œuvre. Grâce à Mouzati a recueilli ses propos, on l'écoute.
Alors que notre pays vient de signer un accord de paix sous la médiation des États-Unis, nous prenons acte de la dynamique positive qui le peut enclencher. Cet accord, bien que perfectible, peut représenter une opportunité de faire taire les armes et de créer les conditions d'un apaisement durable. Pour autant, nous devons rester vigilants. Aucune signature ne saurait remplacer la volonté résolue d'un peuple à défendre sa terre, à reconstruire ses institutions et à tenir debout. Nous appelons nos partenaires internationaux à faire respecter la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, à régler la question des FDLR qui ne doit pas être indéfiniment imputée au Congo et à nommer les choses avec clarté. L'agression que subit la RDC ne peut être maquillée sous l'expression des mesures de défense. L'histoire de peuple nous enseigne que la paix passe par la cohésion et la cohésion passe par les dialogues.
Et pour boucler ce chapitre, à l'initiative de la Ligue des femmes du Front des indépendants démocrates chrétiens, le 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC a été marqué par une rencontre inspirante autour du thème « Les femmes qui ont impacté l'indépendance de notre pays, échange d'expériences et perspectives d'avenir » de la première avocate de la RDC, Maman Elali Gonda Afifi Masuka, la seule femme gouverneure de nos jours, en mettant en parallèle, ces deux figures emblématiques, les participantes ont revisité l'héritage des pionnières tout en projetant leur engagement dans l'avenir politique du pays. L'événement visait à stimuler la conscience civique féminine et à renforcer la présence des femmes dans les sphères décisionnelles à l'heure où la bonne gouvernance requiert l'implication de toutes les voix. Reportage signé Grâce Amzati.
C'est dans cette ambiance que ces dizaines de femmes réunies au siège du parti ont fêté l'indépendance. Janine Matondo est la présidente de la Ligue nationale des femmes de FIDEC.
On a voulu quand même mettre en relief entre les passés et les présents. C'est pour cela que nous avons choisi une dame qui a vécu l'indépendance, l'avant, pendant et l'après l'indépendance pour venir échanger avec les mamans FIDEC, nous partager son expérience. La femme doit être autonome. La femme, c'est la tête. Quand on a une tête bien faite, alors on est une femme de valeur.
Partageant son expérience en tant que première femme juriste de l'histoire de la RDC, Madame Elali Gonda encourage toutes les femmes.
C'est une fierté, c'est une joie, c'est une libération pour notre pays. C'est ce que j'ai dit aux mamans. Mais la maman, elle doit être au premier plan. Et ici, c'est l'occasion pour féliciter toutes les mamans, surtout maman Fifi, qui nous a marqués par son histoire, par son combat. Ce qu'elle fait, c'est pour l'élévation, l'émancipation de la femme. Et nous sommes très fiers.
Elles insistent sur la solidarité pour promouvoir la femme congolaise.
En Ituri, des avancées concrètes pour les personnes vivant avec handicap. Depuis janvier 2025, 370 personnes vivant avec handicap ont bénéficié d'un appui en matériel de mobilité, notamment des fauteuils roulants et d'autres équipements adaptés. Une initiative portée par le Comité international de la Croix-Rouge CICR dans le cadre de son programme de réadaptation physique destiné à soutenir une catégorie souvent marginalisée de la société. À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, un tournoi des baskets en fauteuil roulant a également été lancé ce lundi à Bunia, un événement à la fois sportif et symbolique qui met en lumière les capacités et la résilience de ces citoyens longtemps tenus à l'écart. Isaac Remoyope nous en dit plus dans ce reportage.
Au moins 450 appareils d'aide à la mobilité fauteuil roulant sont déjà remis à 370 personnes vivant avec handicap, dont certains athlètes depuis janvier 2025 à Bounia par les CICR. Cette organisation a également créé plusieurs centres de réadaptation physique et d'inclusion sociale dans les pays, dont au chef-lieu de la province de l'Ituri. Ces centres offrent plusieurs services à ces personnes vulnérables, prothèses, orthèses, aide à la marche et la kinésithérapie. Ces actions sont couronnées par un tournoi de basketball en fauteuil roulant qui a débuté c'est lundi à l'occasion de l'indépendance de la RDC. Trois équipes de personnes vivant avec handicap sont engagées dans cette compétition, organisée en collaboration avec le Comité national des Paralympiques congolais. Les équipes viennent de Bunyanituri, du Nord et du Sud-Kivu. Placées sous le thème « Promouvoir des nouveaux talents en réadaptation physique », ce tournoi a pour objectif d'amener ces personnes victimes de conflits armés, de catastrophes naturelles et autres situations de violence à valoriser leur handicap par la pratique du sport, précise le CICR, mais surtout de sensibiliser la population au handicap et promouvoir une culture d'inclusion et de respect des personnes en situation d'handicap. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Sur le plan sécuritaire, l'insécurité continue de faire des victimes dans la province du Nord Kivu, dans la nuit de dimanche à lundi. Un nouvel acte de violence a endeuillé le quartier Keshiro en plein cœur de la ville de Goma. Le docteur John Mukebai, médecin traitant à l'hôpital Kirochi, a été froidement assassiné à son domicile situé sur l'avenue Ruvuzemwami. Selon les sources administratives locales, des hommes armés ont fait irruption vers 3h du matin, infligeant plusieurs coups de couteau à la victime avant de prendre la fuite. Ce drame suscite une vive émotion. Les défenseurs de droits humains et les membres du RCD-KML, la formation politique à laquelle appartenait le médecin, condamnent fermement ces crimes et dénoncent la montée inquiétante de l'insécurité dans la région. Un climat de peur et d'inquiétude gagne une population déjà éprouvée. Butembo, toujours au Nord Kivu, la société civile tire la sonnette d'alarme face à la recrudescence des cas de harcèlement sexuel au sein des établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la ville. Dans une lettre ouverte adressée il y a 3 jours aux responsables académiques, le réseau pour le droit de l'homme Redo dénonce des actes qualifiés des condamnables, illégaux et contraires à la dignité humaine. Cette organisation locale appelle à une action ferme, tant sur le plan judiciaire qu'administratif, pour sanctionner les auteurs présumés et responsables et restaurer un climat de confiance dans les milieux académiques. Son coordonnateur, Mouindo Wasivinwa, s'exprime au téléphone de Martial Papimukeba.
Cette lettre a été initiée après plusieurs cas de dénonciation des étudiantes demandent aux auteurs d'harcèlement sexuel de cesser avec cette mauvaise pratique afin d'éviter des sanctions judiciaires et disciplinaires. Au président de la conférence des chefs d'établissement et au comité de gestion des institutions supérieures et universitaires de la zone d'avoir un œil regardant et réprimer sévèrement les auteurs. Aux instances judiciaires, une fois saisi, détruire avec célérité tout dossier d'harcèlement sexuel du monde académique et condamner sévèrement les auteurs. Au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, d'éradier toute personne qui sera reconnue coupable des faits d'harcèlement sexuel dans ce secteur. Le Redo promet d'accompagner les victimes au niveau des instances judiciaires pour que les auteurs soient jugés conformément à la loi. Mais aussi, un plaidoyer sera mené au ministère des tutelles pour que les auteurs soient radiés dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire.
À noter, le président de la conférence des chefs d'établissement et de l'enseignement supérieur et universitaire de Butembo n'a pas encore réagi à ces allégations.
Actualité internationale.
En Espagne, l'ancien numéro 3 du Parti socialiste espagnol, Santo Cerdán, a été placé en détention provisoire ce lundi 30 juin. Proche collaborateur du Premier ministre Pedro Sanchez, il est visé par une enquête pour corruption, association des malfaiteurs et blanchiment d'argent dans le cadre d'un vaste scandale lié à l'attribution des contrats publics durant la pandémie du Covid-19. Selon des sources judiciaires, le juge de la Cour suprême a ordonné son incarcération sans possibilité de libération sous caution, évoquant un risque de fuite et de destruction de preuves. L'affaire implique également un ancien conseiller du gouvernement, renforçant la pression sur l'exécutif espagnol.
L'invité.
Kinshasa s'apprête à vibrer au rythme du tout premier festival mondial de musique et du tourisme prévu du 16 au 18 juillet prochain. Cet événement d'envergure se tiendra simultanément sur trois sites emblématiques de la capitale, le centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale et l'esplanade du palais du peuple ainsi que l'échangeur de Limité, un rendez-vous unique qui entend marier culture, sonorité du monde et promotion touristique de la RDC. Pour en parler, donc, nous recevons le ministre du Tourisme, Didier Mpambia, qui est notre invité. Il revient sur les enjeux et les ambitions de ce festival dans un entretien accordé à Kaki Akioa.
Didier Mpambia, bonjour.
Bonjour Kaki.
Votre ministère organise le premier festival mondial des musiques et du tourisme du 16 au 18 juillet 2025 à Kinshasa. Est-ce que ce festival était-il important en ce moment?
Très important parce que la RDC, en tant que Congolais, on a l'impression qu'on est connu partout. On a l'impression que tout le monde a une idée de ce qu'est devenu notre pays. Dernièrement, je discutais avec un ami, Théo, que je salue, qui organisait le 50e anniversaire du combat Ali Forman. Avant qu'il ne décède, Forman lui dit, mais tiens, où est-ce que vous étiez passé durant toutes ces années? Je pensais que votre pays, on n'entendait plus parler de vous. Donc c'est que, heureusement, grâce à la diplomatie active du président Félix-Antoine Tshisekedi, la RDC est redevenue à l'ordre du jour. On est à nouveau présent là où se prennent les décisions. C'est très important d'être là et c'est très important d'être visible. Et dans cette nouvelle stratégie impulsée par le chef de l'État, il y a donc les événements d'envergure, il y a du sponsor sportif. Il y a des événements aussi qui vont se faire en dehors du pays. La première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa-Tuluka, grâce encore à cette nouvelle stratégie qu'on ne peut pas dévoiler. En fait, les journalistes parfois veulent qu'on dévoile certaines stratégies. Autant qu'une stratégie militaire doit être à un certain point dissimulée, autant une stratégie globale de communication doit avoir l'accompagnement des médias.
Certaines presses disent aussi que le ministre organisera bel et bien le tout premier festival mondial des musiques et des tourismes du 16 au 18 juillet 2025, mais les gens qui viendront visiteront quoi à Kinshasa?
Il y a déjà le fleuve.
Oui.
Le fleuve en lui seul, il y a une croisière qui est prévue. Nous avons un circuit aussi qui va nous permettre d'aller de Lola à Bonobo.
Oui.
Nous avons des sites aussi comme le site de Mbombo Lumene. Nous avons un site qui est chargé d'histoire, qui est le site touristique de l'Antsele, avec la pagode, avec tout ce qui concerne l'histoire même de politique de notre pays. Il y a Mbombo Lumene qui est à 4 heures de Kinshasa. Mais il ne faut pas s'arrêter à Kinshasa. C'est pour ça que nous avons fait des stands touristiques. C'est pour ça que sur le site, il y aura Garamba, il y aura Upemba, il y aura l'équipe de Mangrove,
Kamuzi-Biega,
ils seront là. Donc, de manière virtuelle aussi, on pourra visiter. Parce qu'il ne faut pas seulement s'arrêter à Kinshasa.
Kinshasa n'est pas la République,
oui, mais au-delà de tout ce qui est touristique, l'ambiance même. Kinshasa est l'une des capitales créatives de l'UNESCO, hein, vous savez.
Oui, oui.
Au-delà de tout ce qui est touristique, l'ambiance même de Kinshasa, c'est comme pour New York, Paris et autres. Il y a des gens qui viendront rien que pour l'ambiance. Ils vont aller voir Jeteba, qui vont aller à Matongé manger des cabris et tout ça. Donc tout ça déjà, ça fait partie de l'ambiance touristique du festival. Mais de manière virtuelle, les gens vont visiter ça, visiter aussi les stands dans lesquels on va présenter la gastronomie et les différents sites touristiques.
Vous avez signé également avec Monaco pour faire connaître la République démocratique du Congo. Vous l'avez dit d'une certaine manière, avec les sports, vous collaborez. Les dossiers, 49 millions, beaucoup de choses se disent tout autour de ça. Est-ce que vous êtes au courant et qu'est-ce que vous voulez dire aux auditeurs que vous suivez en ce moment?
Bon, je parlais tout à l'heure d'une presse à gage qui est malheureusement devenue monnaie courante. Ils ont le fardeau de la preuve. Hein. La guerre se joue aussi au niveau médiatique. Et quand nous sommes absents, là où les autres sont présents, les détracteurs ouvrent une brèche pour qu'on puisse tirer sur le pays. La perception est une chose importante. Autant les gens ne vont pas s'émouvoir si on paye un char de combat à 5 millions de dollars, autant quand il y a une campagne stratégique pour changer et positionner notre pays au niveau international. Je parlais tout à l'heure d'opinion nationale, mais l'opinion internationale est aussi importante. Autant ils vont s'émouvoir si on parle de 5 millions pour Monaco ou pour un autre club. Mais cela fait partie d'une stratégie globale. Et il y a plusieurs pays qui l'ont fait. La Côte d'Ivoire vient de signer avec l'Olympique de Marseille pour Sublime Côte d'Ivoire. Nous avons ce positionnement stratégique qui est RDC, cœur de l'Afrique, hein, République du Congo, cœur de l'Afrique. Nous sommes au cœur de plusieurs enjeux internationaux.
À quelques jours, ces grands événements également le Festival mondial des musiques et du tourisme qui aura lieu du 16 au 18 juillet 2025. Qu'est-ce que le public peut faire pour accéder ou pour participer à ces festivals?
D'abord, au niveau de la cérémonie d'ouverture, c'est sur invitation, hein, parce que là, il y aura des officiels, et ce sera vraiment sur invitation. Mais juste après, il y a l'espace qui est ouvert au public. Mm-hmm. Pour le grand public, c'est, je pense, ça va être un prix démocratique, hein, de façon à filtrer seulement ces 5000 francs.
Oui.
D'autant plus que nous avons avec l'UNICEF un partenariat que nous allons signer cette semaine pour que 20% des revenus aillent aux enfants déplacés à l'est du pays.
Didier Pambia, vous êtes ministre du Tourisme. C'était un plaisir de vous recevoir.
Invité de notre rédaction, le ministre du Tourisme, Didier Pambia, a répondu aux questions des Kaki Akiwa au sujet du tout premier festival mondial de musique et du tourisme prévu du 16 au 18 juillet à Kinshasa, un événement placé sous le signe de la valorisation du potentiel touristique de la RDC. C'est tout pour ce journal, mis en onde par Dieudonné Nyangasa, supervision par Pélékipé Lamondo, présentation par Gisèle Cage. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre attention. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester informés en temps réel. À très bientôt pour une nouvelle édition.